Donc, on peut les applaudir, les accueillir. Donc, Martine et Jean-Marc Fritsch, donc, que plusieurs dans l'Église connaissaient déjà depuis plusieurs années, ce sont des formateurs, mais pas de n'importe quoi, ce sont des formateurs de disciples. Et pour faire très court, ils ont été formateurs de disciples dans beaucoup de parties du monde, beaucoup en Afrique pendant 30 ans, plus de 30 ans, et en Europe maintenant depuis plus de 10 ans. Et ils sont juste extraordinaires. C'est tellement génial de pouvoir les avoir au milieu de nous. Ils sont tous, enfin, ce sont des enfants de Dieu comme nous. On les met pas sur un piédestal, mais sachons les honorer, honorer leur appel, honorer l'appel de Dieu sur eux. Hier, on a passé toute une journée à apprendre de leur expérience. Ce sont des personnes qui parlent de leur vécu et de leur expérience. Et ça, il nous amène vraiment quelque chose dont moi je prêche tout le temps là-dessus, malheureusement pas assez de mon vécu, mais il nous amène vraiment ce truc de concrètement comment on fait des disciples, concrètement comment on obéit au grand mandat de Dieu pour nous, de Matthieu 28, d'aller faire des nations des disciples. Donc c'est vraiment génial de les avoir aujourd'hui et que nos cœurs soient vraiment ouverts parce que c'est quelque chose qui est dans la vision de l'Église mais qui va prendre maintenant d'autres nouvelles formes et ils vont nous accompagner dans ça. Donc merci Martine pour ce que tu vas nous partager.
Voilà, ben, je suis très très privilégiée, très heureuse d'être avec vous ce matin. Alors on m'a beaucoup parlé de l'Église Connect et on m'a dit Martine, tu vas voir, dans cette Église c'est bourré de personnes avec des talents et qui ont une dynamique missionnelle. Alors, j'ai aimé, en fait, on a beaucoup d'amis communs, et d'ailleurs, on refait la découverte ici de personnes qu'on ne s'est pas vues depuis très très longtemps. Mais vous êtes une église missionnelle, en fait, vous avez cette réputation, c'est vrai ?
Yes.
Ouais. Alors, le mot missionnel, bon, c'est un adjectif qui correspond à être en mission. Vous savez, on aime bien créer des nouveaux mots à partir de l'anglais. Et ce mot, il a été inventé et introduit dans la langue française à la fin des années 2000 parce que le terme missionnaire évoquait ce qui était loin de nos frontières. Alors, ça posait un problème de dire qu'on était missionnaire dans notre pays. Mais nous, avec Jean-Marc, en fait, on a été, alors du coup, missionnaire pendant 30 ans en Afrique. Et on n'aimait pas utiliser le mot missionnaire. Donc, c'était quand on revenait en France qu'on nous disait « Ah, les missionnaires sont de retour ». On revenait en France tous les 3 ans, donc on ne l'entendait pas trop, ça va. Et les missionnaires étaient de retour. Mais en fait, non, on était envoyés par Jésus pour aller faire des disciples, démarrer des églises. On dit aussi « implanteur d'églises ». Avec notre métier, et en l'occurrence, moi, j'étais médecin, donc j'aime bien dire que j'étais implanteur d'église avec mon mari et médecin, et nous avons démarré beaucoup de projets de développement qui ont amené le royaume de Dieu dans les nations. Alors, le mot missionnel, il se rattache davantage à ce qui est à l'intérieur de nos frontières. C'est intéressant de réaliser d'ailleurs que ce mot, il est devenu tellement commun, que parfois c'est devenu une étiquette et qu'on n'est plus du tout missionnel. Donc il y a un nouveau mot qui est en train d'arriver, soyez attentifs, mais il y a un nouveau mot qui arrive, qui vient bien sûr de l'anglais, mouvementiel. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut effectivement qu'il y ait des mouvements de multiplication de disciples dans les nations. Et moi qui suis une passionnée donc de la mission, je veux vraiment rappeler que le but ultime de la mission, le but ultime, c'est la gloire de Dieu. Hein? Et le fondement de la mission, c'est l'amour du Père. C'est trop, trop important. Et la gloire de Dieu le Père, où est-ce que tu la contemples ? Tu la contemples en regardant Jésus. Hein? Jésus, c'est le reflet parfait de la gloire de Dieu. Alors, gardons nos yeux fixés sur Jésus, soyons pleins de Jésus. Il est le reflet parfait de la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on veut amener dans notre pays, la gloire de Dieu. Hein? Et on veut l'amener dans les nations. Alors, le thème de hier, c'était la multiplication de disciples. C'était cool d'être un petit groupe parce que c'était perso, c'était sympa. Et je crois qu'ils demandaient à ceux qui étaient là, ils partageront ce qu'ils ont vécu. Et c'est toujours défiant de voir comment Jésus, il a formé ses disciples pour que ces gars qui étaient hyper tournés sur eux-mêmes, relisez les évangiles, vous allez voir, l'ego était vraiment là. Et ils étaient tournés sur leur intérêt, leur petite guéguerre, leur petite dispute. Et ces gars-là, ils sont devenus passionnés du royaume au point d'en mourir. Ouais. Et si bien qu'en l'an 300, après Jésus-Christ, il y avait 10% de l'Empire romain qui était chrétien. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? En l'an 300, il y avait 10% de l'Empire romain qui était chrétien. En l'an 1900, il y en avait 33%. En l'an 2000, il y avait... Vous avez idée ? Non. Alors, il y avait toujours 33%. Et, ouais, dommage. Et en l'an 2020, donc c'est des statistiques officielles, en l'an 2020, il y en avait combien ? Donc en l'an 2000, 33%. En l'an 2020, en fait, tenez-vous, vous êtes bien assis sur les chaises, parce que là, il va falloir s'amoller. Hein. Il y en a 28,20%. Voilà. Wow. Et en fait, il y a une baisse de 1,8 qui est comblée par l'islam. C'est pas que le nombre de chrétiens est en train de diminuer. Il y en a des personnes qui naissent de nouveau. Mais la croissance de la population est supérieure à la croissance de l'Église. Et quand on entend ces chiffres, hein, bon, les chiffres, ça parle quand même, hein, ou les schémas, ça parle. Mais on prend un coup, n'est-ce pas ? Hein ? Il faut qu'on ait un diagnostic brutal pour qu'il y ait un mouvement. Si on ne réalise pas ça, on ne réalise pas qu'un mouvement est nécessaire. Et c'est pour ça que l'Église, elle doit redevenir missionnelle ou mouvementielle plus que jamais, hein ? Comme dans les premiers temps. Alors, quand je parle de mouvement, c'est l'idée qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui va faire des disciples. Et dans tous les endroits du monde où la croissance de l'Église est supérieure à la croissance de la population, il y a ce qu'on appelle des mouvements de multiplication de disciples. On n'en a pas encore en France. Le pays où il y a le plus, l'Église est en train de grandir le plus, vous savez, c'est en Iran. En Iran, oui. C'est souligné, d'accord, dans tous les endroits où il y a les mouvements de multiplication de disciples, il y a la persécution. Et les disciples doivent se préparer à la persécution. Mais dans tous ces endroits, quand on demande, c'est quoi la définition d'un disciple ? Hier on en a parlé, mais un disciple, c'est quelqu'un qui connaît le nom des disciples de ses disciples. Ça va ? Un disciple, c'est quelqu'un qui connaît le nom des disciples de ses disciples. Je me suis entraînée à ça depuis des années, à connaître le nom des disciples à venir, de mes disciples. Et je peux vous dire que le Seigneur m'a fait a exaucé les prières, comme Jésus l'a fait dans Jean 17. Hein. Il priait pour ceux qui croiraient à cause de leur témoignage. Commencez à prier pour les futurs disciples, hein, si vous êtes familier avec cette notion de VIP, de vos disciples. Et on va voir les mouvements. Moi, j'ai fait ça à Madagascar. J'ai amené des gens à Jésus qui, aujourd'hui, sont arrière-grands-parents. On a vu un mouvement. Mais je connais le nom des disciples de mes disciples. Hein? Donc, voilà. Bon, enfin, faut pas que je me perde trop. Et comment vous pouvez faire ça ? Parce que souvent, les gens ils me disent, mais comment tu fais, Martine, pour ça ? Bon, je vous donne ma petite astuce. Moi, j'ai un téléphone smartphone, comme vous, et je me mets des reminders, des mémos. Alors, j'essaye de les faire silencieux, mais selon les jours, je prie pour telle personne. Et je prie, entre autres, pour les disciples de mes disciples, d'accord, qui sont pas encore nés de nouveau. Alors, il y a le reminder qui s'affiche jusqu'à ce que j'ai prié dans ma journée. Hein. Et depuis des années, à 10h02, il y a ma petite alarme de téléphone qui sonne. Vous savez pourquoi à 10h02? Luc 10:2, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, parce que la moisson est grande. Et dans le monde entier, dans tous les mouvements, il y a des millions de gens qui, à 10h02, donc dans toutes les nations, hein, eh ben, ils s'arrêtent, ils prient 2 minutes, ça ne te prend pas beaucoup de temps, hein, tu peux être même devant ton ordinateur, mais à 10h02, vas-y. J'ai prié pour vous, parce que vous êtes des ouvriers dans la moisson. Hein? Yes. Et voilà, et la moisson est grande. Alors, en fait, comment est-ce qu'on va voir, pourquoi on ne voit pas de mouvement en France? On a eu la grâce de voir un mouvement, et il y a un mouvement de multiplication des disciples à Madagascar. Et j'ai côtoyé des gens en Inde, en Indonésie, en Ouzbékistan, dans des endroits, hein, pardon, au Népal, qui vivent ça. Et donc, moi, on a été impactés et c'est notre passion. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça? Est-ce que c'est un manque de vision? Est-ce que c'est un manque d'effort? Est-ce que c'est un manque de méthode qu'on n'arrive pas à reproduire? Est-ce que c'est un manque de... Est-ce que c'est de la dispersion dans nos activités? Est-ce que dans notre programme, on ne laisse pas suffisamment de place pour ce qu'on dit l'évangélisation, mais je veux dire pour aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, hein? Ou alors, est-ce que ça pourrait être un manque de foi? Et le manque de foi que Dieu va commencer un mouvement à cet endroit, en ce moment et au travers de moi. Et c'est de ça que j'aimerais parler, en fait. Et Matthieu 17, il décrit un contraste frappant entre ce qui est possible avec Dieu et ce qui est possible sans lui. Matthieu 17, avant il y a Matthieu 16. Okay? Dans Matthieu 16, qu'est-ce qui est... Il y a Jésus qui demande à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et il y a Pierre qui fait cette réponse extraordinaire, « Mais tu es le Fils de Dieu, hein, le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Et juste après, si vous vous rappelez, Jésus qui dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ok, là c'est Matthieu 16. On arrive, la Bible nous dit, 6 jours plus tard, Matthieu 17. Jésus, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les amène sur une haute montagne, à l'écart. Et là, il est transfiguré devant eux. Et son visage se met à resplendir comme le soleil. Voilà, c'est la gloire de Dieu. Hein? Et ses vêtements, ils prennent une blancheur éclatante comme la lumière. C'est la gloire de Jésus qui est révélée devant leurs yeux. Et il y a Moïse et Élie qui sont là, vous connaissez cette histoire, hein, et qui parlent avec Jésus. Donc, pas de commentaire sur ce que Pierre dit à ce moment-là, mais là, il y a une voix qui descend du ciel et qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » Alors, dans une telle atmosphère, sur la montagne de la Transfiguration, rien de ce que le Fils de Dieu pourrait dire à ses disciples ne pourrait leur paraître impossible, ou ne pourrait être mis en doute. Aucune mission n'est trop difficile quand tu es sur la montagne, surtout quand tu as Jésus transfiguré, quoi, et que tu as la voix du Père qui dit « Mais écoutez-le, mon Fils bien-aimé. » Aucun obstacle n'est trop grand, aucun ennemi inflexible, tout est possible. Ça vous est déjà arrivé ? D'être sur la montagne comme ça. La vie au sommet de la montagne, ouais, elle est extraordinaire. Elle est bonne, en fait. Alors, remis dans le contexte de la vie missionnaire, au sommet de la montagne, missionnaire ou missionnelle, la mission, elle est très claire. Et la mission du Fils, tu te dis, quand tu es sur le sommet de la montagne, rien ne peut l'arrêter. Faire des disciples qui vont se multiplier une génération après l'autre, une grande moisson dans tous les peuples, quand tu es sur le sommet de la montagne, yes, c'est très clair. quand tu es sur le sommet de la montagne, les promesses, elles sont certaines. Et les promesses de Dieu, elles sont si grandes et si nombreuses que rien ne te semble impossible. Et là-haut, sur la montagne, la puissance de Dieu, elle est infinie. Et avec nous, hein. Et le ciel, il est ouvert, t'entends Dieu qui parle. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et quand on est sur le sommet de la montagne, on est touché, on est bouleversé, quoi. Et en haut de la montagne, il y a beaucoup qui disent oui. Et moi-même, un jour, au sommet de la montagne, où j'allais souvent au sommet de la montagne, dans des temps d'adoration, j'étais tout le temps, j'entendais tout le temps Dieu me parler des nations. Et je voyais dans la Bible que le mot « nation ». Je parlais à des amis, mais t'as pas vu chaque fois que Dieu parle des nations. Et au sommet de la montagne, j'ai dit oui à Dieu. J'ai dit oui parce que j'étais là dans la gloire de Dieu. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie, et si je te donne ma vie, ça veut dire, Seigneur, tu peux en faire ce que tu veux. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est une autre histoire. Alors, qui a déjà entendu parler Dieu au sommet de la montagne? Il y en a? Il n'y en a pas beaucoup. Et ce matin, on était au sommet de la montagne. Ouais. En tout cas, au sommet de la montagne, tu peux entendre Dieu te parler des nations. Mais tu peux entendre Dieu te parler de ton voisinage, de ta famille, du Dauphiné, hein, et peut-être un peu plus loin, quoi, hein. Mais c'est au sommet de la montagne qu'on a entendu nous parler. Le problème est que les disciples, tous les disciples, donc Pierre, Jacques et Jean, et nous qui avons été sur la montagne, on doit descendre de la montagne, hein, et on descend de la montagne vers le reste du monde. Et vers le reste du monde, c'est un endroit où les réalités... elles brouillent les messages et elles affaiblissent notre foi. Au bas de la montagne, il y a neuf autres disciples. Et ils sont en train de se battre contre une autre réalité, c'est dans Matthieu 17. Et cette autre réalité, c'est l'écrasante servitude du malin. Vous vous rappelez cette histoire, hein? Donc, au bas de la montagne, il y a neuf autres disciples qui essayent de chasser un démon. Et en fait, le père de cet enfant avait dépensé beaucoup, beaucoup d'efforts pour la guérison de son enfant. Et les disciples, là, les neuf autres, ça faisait un moment qu'ils étaient là en train d'essayer de chasser le démon d'un jeune homme. Et pourtant, les 12 apôtres, ils avaient été déjà mandatés pour chasser les démons. Hein, parce que dans Matthieu 10, on voit Jésus qui les envoie. Donc, ils avaient déjà expérimenté du succès. Hein. Mais apparemment, dans Matthieu 17, donc en bas de la montagne, là, ils font face à une autre puissance démoniaque qui est au-delà de leur expérience et de leur foi. Alors moi, pour avoir vécu beaucoup en Afrique, hein, j'imagine les neuf... les neuf disciples, là, ils devaient être là en train de s'acharner sur ce jeune homme-là et crier de plus en plus fort. Allez, sors, mais en fait, c'était en vain. Et en tout cas, peu importe ce qu'ils faisaient, ça c'est mon imagination, mais ça n'avait pas marché. Ça va? Vous me suivez? Ouais. Et de la même manière, les missionnaires ou les ouvriers du royaume que nous sommes, on fait face à des forteresses qui vont défier notre foi et qui vont d'abord défier notre expérience, parce qu'ils avaient une expérience, les disciples, mais ça va aussi défier notre foi. Et on va peut-être mettre beaucoup de force à pousser ces murs, et ces murs résistent. Et à ce stade-là, il y en a beaucoup qui abandonnent et qui se résigne en se disant « Non, la tâche, elle n'est pas possible, c'est impossible. » Mais dans Matthieu 17, là, il y a Jésus qui apparaît dans l'image. Alors, ils descendent de la montagne, imagine la scène, quoi. Il y a les neuf disciples, là, puis certainement plein de monde, et ils n'y sont pas arrivés, quoi. Et Jésus entre soudainement dans ce qui va être une confrontation. Il y a le papa qui se jette à ses genoux et qui supplie Jésus pour la délivrance de son fils. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. » Et les paroles de Jésus, elles sont super choquantes. Alors si vous avez votre Bible sur votre téléphone ou en papier, les paroles de Jésus dans Matthieu 17:17, regardez écoutez bien ce qu'il dit, parce que c'est ce qu'il nous dit. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Waouh, pardon de dire ça. Mais j'ai regardé dans le grec, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, il parle à ses disciples. Hein. Il est sympa quand il parle à ses disciples. Waouh. Donc, il leur dit génération incrédule. Disciples incrédules. C'est un mot grec, apistos. Apistos, en fait, ça veut dire a, pistos, c'est la foi. Donc, c'est incrédule, sans foi, sans confiance en Dieu. Ce matin, on a beaucoup parlé de confiance. Donc, génération incrédule, sans foi, sans confiance en Dieu. Je me mets dans le paquet avec vous, hein, t'inquiète. Et puis, il leur dit perverse. Perverse, c'est en grec, c'est le mot diastrepho. Ça veut dire se détourner du droit chemin, pervertir, corrompre, opposer au plan de Dieu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le mot pervers, c'est un mot fort quand même. Hein. On le réserve pour des péchés horribles, genre un homme qui couche avec une femme qui n'est pas sa femme. Bon, ça, c'est un péché. Ce n'est même pas une perversion. Mais un homme qui couche avec un animal ou un enfant, ça, c'est de la perversion. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, pour nous, c'est quand même un truc grave, quoi. Et voilà que 9 disciples qui n'arrivent pas à chasser un démon, Jésus leur dit, mais incrédule et pervers. Parler de perversion quand on n'arrive pas à chasser un démon, on est tous dans la situation, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Les paroles de Jésus, elles semblent vraiment dures, hein, jusqu'à ce qu'on réalise la profondeur du mensonge que Jésus défie. En haut de la montagne, on n'a aucun doute à propos de la déité et de la puissance de Jésus. Tout est clair. Mais en bas de la montagne, il y a un mensonge millénaire qui continue sa marche et qui est en marche là dans notre pays. Et ce mensonge, le Père le croyait et les 9 disciples le croyaient. Et ils avaient succombé à une pensée perverse, une pensée corrompue. Et cette pensée corrompue, cette pensée perverse, elle est très, très contagieuse dans l'Église. Quand il s'agit de la mission et de l'expansion du royaume, quand il s'agit de la libération de nombreux captifs. Cette pensée, c'est que l'ennemi créé par le Dieu Tout-Puissant, il a plus de puissance pour tenir un enfant dans l'esclavage que le Dieu Tout-Puissant pour le libérer. Ouais. Et avec Jean-Marc, on a fait face à des situations très similaires, très, très rocambolesques. Mais je veux juste partager un petit témoignage. C'était avant que je ne sois mariée. J'étais partie dans une situation humanitaire dans un pays d'Afrique du Nord, en fait, je peux le dire, là, c'était en Mauritanie. Donc, j'étais au nord de la Mauritanie, à la frontière du Maroc, dans une zone, à l'époque, de conflit, avec le Front Polisario. Et c'était une période de famine, de grande famine dans le désert. Donc, j'étais partie, bon, je vous dis là comme missionnaire, mais j'étais partie avec une ONG, avec vraiment la vision d'aller parmi ce peuple non atteint pour voir un jour le royaume de Dieu dans cette nation. À l'époque, quand j'y suis partie, il y avait un seul croyant dans ce pays et il était en prison, Ouais, il s'était converti au Mali et il était en prison dans la capitale. Donc c'était vraiment un peuple, un pays complètement non atteint. C'est toujours une république islamique du reste. Hein. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des mouvements de multiplication de disciples dans cette nation. Vraiment. Et en fait, le petit témoignage que je veux partager, je travaillais parmi les nomades, donc j'allais de campement à campement, et on avait une petite base, c'était une petite cabane dans un oasis, et quand on arrivait, comme on allait de campement en campement, je dormais sous la tente, puis le vendredi, qui est le jour quand même de repos là-bas, parce que c'est un pays musulman, on se posait dans cette petite cabane de l'oasis, et on était en permanence attaqués par les enfants qui étaient soulevés par, je pense, les parents, mais qui nous, les enfants nous lançaient toujours des cailloux. Donc on n'avait aucune possibilité d'être tranquille. Les enfants essayaient toujours de nous lancer des cailloux, et ces cailloux, ils tombaient toujours à nos pieds, ils ne nous ont jamais touchés, la puissance de Jésus. Mais à un moment donné, avec mon ami, on était deux, et parce que le Seigneur envoie les gens deux par deux, et on s'est dit, non, mais ça suffit, on n'en peut plus. Et on a eu la bonne idée d'exercer notre autorité spirituelle. Et alors que ces enfants lançaient les cailloux, on leur a dit maintenant, au nom de Jésus, vous partez. Et ils sont partis en courant. Et le lendemain, ces mêmes enfants, ils venaient vers nous et ils nous ont dit, est-ce qu'on peut vous aider à aller puiser l'eau, parce qu'il fallait prendre notre âne pour aller chercher de l'eau en bas. Voilà, la vie dans le désert. Mais c'est juste pour une petite histoire pour dire, on a une autorité et souvent on oublie de l'exercer, quoi. Alors on vivait des temps de louange, un peu en cachette, mais on oubliait de chasser l'esprit qui était dans ses enfants. Et aujourd'hui, devant la mission que Jésus nous confie, les ouvriers du royaume, ils font face à trois types de pensées corrompues. Corrompues, perverses. Et ces pensées, elles sont bien cachées à nous. Alors je suis là vraiment pour essayer de les dénicher. La première pensée, c'est de se dire « pas ici ». Pas ici. Et on a beaucoup voyagé avec Jean-Marc dans je ne sais pas combien de nations. Et le plus on voyageait sur les différents continents, plus j'étais convaincue de cette réalité. Les gens pensent toujours, là où je suis, c'est un défi unique. Et ma réalité, elle est plus dure qu'ailleurs. Et alors en France, vraiment, on pense ça. Hein? Là où je suis, vraiment, mais tu ne te rends pas compte. C'est vraiment un défi unique et c'est beaucoup plus dur qu'ailleurs. Hein? C'est la région toulousaine, c'est très, très dur. Hein? Très laïque. Alors, on s'engage du coup dans une gymnastique impressionnante pour expliquer pourquoi ma ville, c'est l'endroit le plus difficile, pourquoi ma région, c'est l'endroit le plus difficile. Et dire que ta région, que ton coin, c'est trop dur pour Dieu, tu prends l'ordre divin à l'envers. Donc là, tu as une pensée, c'est ce que Jésus dit, hein, pervertie, tordue. Et les pensées perverties, elles s'envolent devant la promesse de Dieu que les peuples de toute langue, de toute nation et de toute couleur seront devant son trône. Vraiment, quand je suis partie en Mauritanie ou quand je suis partie parmi les peuples nomades, Peul, je visionne toujours que ça. Ces peuples qui sont devant le trône de l'agneau et qui chantent la gloire de Dieu. Je suis partie parmi les Peuls en 1982. Ils étaient à l'époque un peuple complètement non athée et complètement musulman. Et c'était avant que je ne sois mariée. Et en fait, j'avais un appel très, très fort pour les peuples nomades. Je lisais la Bible, je voyais plein de promesses pour les peuples nomades. C'était comme si la gloire de Dieu éclairait des passages dans la parole, et que je voulais voir ces peuples nomades autour de son trône. Et aujourd'hui, en fait, il y a des mouvements de multiplication de disciples parmi les Peuls. Alors, on en entend beaucoup parler parce que ce sont les terroristes, les bergers Peuls qui attaquent, qui sèment la terreur en Afrique de l'Ouest, et terrible terreur. Si vous lisez Portes ouvertes, vous êtes au courant. Mais en même temps, ce qu'on n'entend pas parler, c'est qu'il y a des mouvements de multiplication de disciples qui sont partis du Burkina Faso, hein, et qui ont la vision de toucher les peuls dans toutes les autres nations, parce que les peuls, ils sont du Sénégal jusqu'au nord du Tchad. En fait, je vais vous faire un peu de géographie. Mais ces nomades, je les retrouve devant le trône de l'agneau. Et voilà, j'ai la joie de connaître certains qui sont des arrière-petits-fils. Et avec Jean-Marc, on a eu le privilège d'emmener les premiers croyants de quatre ethnies différentes et 100% musulmanes. Et en fait, j'en tire aucune gloire. Parce que c'est ma joie, c'est de dire, ouais, ils sont devant le trône de l'agneau, mais pas que. Il y a tout un peuple. Hein, et c'est la gloire. Alors, le premier mensonge, c'est la première pensée corrompue, c'est plus fort que mensonge encore, hein, pensée corrompue, quoi, c'est pas ici. La deuxième, c'est pas maintenant. Certains, ils sont bien d'accord que Dieu veut une grande moisson, ici, dans leur ville, leur pays, leur peuple, mais le mensonge qu'ils croient, c'est, oui, à un certain moment, dans le futur, quand le réveil sera là, quand certaines conditions seront réunies, mais pas maintenant. Et donc, ils disent que les barrières dans cet endroit sont trop grandes pour qu'il y ait des convictions du Saint-Esprit. Il faut d'abord faire beaucoup de ménage spirituel. Enfin. Donc, peut-être ça va être dans une autre génération. Ils se disent, pas maintenant, je ne suis pas prête. Et puis, si toi, tu dis, je ne suis pas prête, il y a aussi des gens qui te disent, tu n'es pas prêt. La clé de Jésus, c'est de revoir Matthieu 28. Tout en allant, tu vas faire des disciples. C'est pas, en fait, quand on relit Matthieu 28, c'est pas aller et faites des nations des disciples, c'est tout en allant, faites des disciples. Donc tout en allant, tu te prépares et le Seigneur te continue de te préparer et tu vas faire des disciples. Tu vis dans le maintenant de Dieu. Pour le royaume. Ne vis pas dans le demain de Dieu, c'est maintenant. Hein? Et apprends avec d'autres qui le font, si tu le fais déjà. Si tu le fais déjà, je sais qu'il y en a déjà dans votre église, hein, qui font ça, mais prenez d'autres avec vous et faites-le ensemble, quoi. Et on va faire un petit pas après l'autre, mais on va le faire maintenant. Et la dernière pensée perverse, corrompue, c'est de penser pas au travers de moi. Certains, ils sont convaincus, ouais, que c'est le temps de Dieu, maintenant, pour un peuple, pour une ville, pour le Dauphiné, parfois même juste pour une personne. Mais quand ils disent, je peux voir ça, mais ça va arriver au travers d'un super apôtre ou d'un super évangéliste ou je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas se faire au travers de moi. Donc la solution, c'est il faut que j'amène les personnes près du super apôtre, près du super évangéliste. Une telle pensée, ouais, je vous dis, c'est une pensée perverse, une pensée qui tord l'ordre divin. Et c'est comme si vous êtes en train de dire la multiplication spirituelle, elle dépend de nous. Et en fait, la multiplication spirituelle, elle dépend de Dieu. Et il y en a qui s'aiment, il y en a qui plante, il y en a qui arrose, mais la multiplication, elle dépend de Dieu. Et le Dieu qui a dit, deux petites pièces ont plus de valeur que tout le superflu que les autres donnent, dans une autre histoire, il est vraiment capable d'amener une grande moisson au travers d'un humble disciple de Jésus. Des fois, je ris en pensant à tout ce que le Seigneur a fait. Je ris, vraiment. Et je crois que Jésus rit. Et c'est pour ça qu'on écrit un livre. En pensant à ce que le Seigneur a fait au travers de nous et de moi, qui viennent d'un petit village du Quercy, du Lot. Alors le Lot, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup d'églises. Hein, et en fait, jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'avais rencontré aucun chrétien protestant ni évangélique. Je ne savais même pas que ça existait. Mais vraiment, je ne savais pas que ça existait. Et je viens d'un milieu plutôt occulte. Mais quand je pense comment le Seigneur m'a sorti du village du Lot, bon, il m'a fait passer par Toulouse où j'ai étudié et je l'ai rencontré. Et puis qui m'a amenée dans des endroits mais complètement incroyables, avec en plus une santé qui n'était pas solide. Et combien de fois j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas des erreurs de casting. Mais non. On est parti à un moment donné, le Seigneur nous envoie à Madagascar. Donc on était en Afrique du Sud, on a compris que Dieu nous envoyait à Madagascar, alors qu'on avait le plan d'aller dans la République islamique des Comores. Avant de partir à Madagascar, c'est écrit dans notre livre, mais une chose, j'avais vraiment peur, moi, après avoir vécu pendant des années dans le désert, dans le Sahel, j'avais peur de l'eau. Alors tout ce qui est phénomène climatique, ça, les cyclones, tout ça, je vous dis, ça me faisait peur. Et pof, le Seigneur nous dit, vous allez aller à Tamatave, donc c'est la zone la plus exposée aux cyclones de Madagascar. Erreur de casting encore. Hein. Et le jour où on débarque, Jean-Marc nous avait précédé, je débarque avec mes deux filles, avec leurs valises, leurs gros sacs à dos remplis de livres scolaires. Pof, un cyclone qui s'abat. On descend de l'avion, on est en plein cyclone. Et donc, le Seigneur ne fait aucune erreur de casting. Je crois qu'il... Même si j'ai encore peur de tous ces phénomènes, eh bien, j'ai pu survivre pendant 10 ans et faire face à tout ça. Donc, ne nous disons pas, oh, moi, j'ai peur, ou le Seigneur te connaît et le Seigneur est ton Père. Alors, au pied de la montagne, la réalité spirituelle d'en haut, elle devient, elle est plus obscure et il est facile de tomber dans cette pensée pervertie. Et voilà. Jésus, je m'excuse, mais j'ai oublié de regarder à quelle heure j'ai commencé. Je suis à combien de minutes hein? Ok, ça. Au pied de la montagne, il y a Jésus. Et Jésus, dans Matthieu 17, 18, qu'est-ce qu'il dit? Il commande avec sévérité aux démons de sortir et immédiatement, celui-ci sort de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Voilà. Ce mot immédiatement. Il montre juste par sa solution à quel point la pensée des disciples était tordue. Et en privé, alors c'est trop génial quand même, quand on s'imagine la scène. En privé, il y a les disciples qui vont demander à Jésus, mais Jésus, pourquoi on n'est pas arrivé à vaincre ce démon? Et Jésus leur résume le problème. Vous vous rappelez? C'est parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Vous avez peu de foi. Et on fait tous face à ce problème. Et le problème principal, c'est notre compréhension de ce qu'est la foi. Après des années de marche avec Jésus, je me dis, le problème principal, souvent, c'est notre compréhension de ce qu'est la foi. Parfois, on voit la foi comme... la force de Star Wars, vous voyez, de la guerre des étoiles. Et il y a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, ils pensent que s'ils croient simplement de plus en plus fort, ils ressentent, mais vraiment de plus en plus profondément, qu'ils parlent de plus en plus fort et qu'ils répètent les bonnes paroles, le problème va être résolu. Bon, c'est peut-être pas le cas parmi vous, mais il y a des personnes qui sont comme ça. Ça, c'est pas la foi. C'est la limite d'une certaine magie. Hein. On n'est pas dans Star Wars, quoi. Et la foi, non plus, c'est pas manipuler Dieu. Il y a des croyants qui pensent que s'ils prient avec de plus en plus de ferveur, ils vont pouvoir forcer le bras de Dieu. Et que Dieu va devoir intervenir pour faire quelque chose qu'il n'a pas l'intention de faire. Ça, c'est de la manipulation. En fait, tu pries de plus en plus fort, de plus en plus longtemps, et tu veux forcer le bras de Dieu à faire quelque chose qu'il n'a pas l'intention de faire. C'est pas de la foi, c'est de la manipulation. La foi, c'est pas non plus de la présomption. La présomption, c'est super, super dangereux. Et on voit un exemple dans Nombre 14, 40. Quelques enfants d'Israël, ils ont présumé qu'ils pouvaient proclamer les promesses de Dieu, mais sans remplir les conditions à ces promesses. Et les conséquences, elles ont été dramatiques. Donc, on a tous entendu des définitions différentes de la foi. Bon, je suis sûre que vous avez un bon background théologique. On a tous des définitions de la foi. Mais au final, j'ai réalisé, en fait, après toutes ces années avec Jésus, que l'essence de la foi, c'est le repos. Ouais. Et la foi peut être définie par un mot, repos. Et qu'on a un Père, un grand Dieu, un Papa, qui entend les petites choses de nos cœurs. Moi, j'ai grandi avec des parents qui n'écoutaient jamais, qui ne posaient aucune question, donc zéro pointé, hein, de communication. Et quand j'ai découvert le Père, l'amour du Père, en mission, qui prenait soin de moi dans des endroits mais vraiment super compliqués, c'est le repos de la foi. À un moment donné, j'attendais ma deuxième fille. Et vous savez, quand on est enceinte, on a de temps en temps des petites envies ou des grosses envies. Et là, j'avais une envie folle dans un pays musulman de manger du jambon de Bayonne. Mais donc, même si Jean-Marc voulait en chercher, donc c'était comme, j'avais dit ça comme ça, tu vois, à Jean-Marc. Mais je savais de toute façon que c'était impossible. C'était pas des fraises, c'était jambon de Bayonne. Et ce qui s'est passé, c'est que 3 jours plus tard, on reçoit un colis. Un colis d'une dame qu'on ne connaissait même pas. Et on ouvre le colis, et à l'intérieur, il y avait un énorme jambon de Bayonne dans du papier d'alu. En fait, on a enlevé le papier d'alu et un jambon de Bayonne. Mais vous savez comment j'ai pleuré. On peut raconter plein d'histoires qui illustrent que il y a toujours la vision pour la provision pour la vision. Hein? Tu as une vision de voir un coin atteint. Si ta vision est c'est la vision du royaume. Et le royaume, il vient au travers du disciple qui se multiplie et qui porte le message du royaume de Dieu. Il y aura toujours la provision pour la vision. Parce qu'on est avec un Père. Et sur la montagne, le Père, il nous a montré sa gloire. Alors quand Jésus, il a présenté sa solution à ses disciples, et il leur a dit, mais vous avez juste besoin d'un petit peu de foi, comme un grain de moutarde, pour déplacer les montagnes. Un peu de foi dans un grand Dieu, ça fait déplacer les montagnes. Et il ne s'agit pas donc de celui qui croit, de moi, mais il s'agit de celui en qui je crois, en qui vous croyez. Et pendant une grande partie de ma vie, moi j'ai eu l'image de cet épisode, comme je me disais, waouh, Jésus quand il descend la montagne et qu'il voit les disciples comme ça, en train de se débattre avec ce petit enfant épileptique et chasser ce démon. Et après, quand Jésus les reprend, je me disais, en fait, ça devait être chaud quand même. J'imaginais Jésus un peu fâché, mais vraiment, les gars, en fait, si seulement vous aviez cette foi, juste comme un petit grain de moutarde, mais quand est-ce que vous allez apprendre cette leçon? Qu'est-ce que je vais faire avec une bande comme vous? Enfin, moi, je m'imaginais comme ça. Et puis un jour, j'ai vu un petit film de l'évangile de Matthieu. Et la scène m'a changé toute l'image. Parce que dans ce petit film, en fait, tu voyais Jésus avec ses disciples. Au moment de cette scène, il était là, il grattait la tête d'un de ses disciples. C'était trop, trop beau. Et il souriait avec eux en jouant et il les encourageait. Et c'était comme si on pouvait sentir Jésus qui disait, allez les gars, courage. Tout ce que vous avez besoin, c'est de la foi comme une graine de moutarde. Et juste un peu de foi à un grand Dieu et cette montagne va bouger. Et après, quand tu vois ce qui s'est passé à la suite, tu sais que cet épisode-là, en haut de la montagne, en bas de la montagne, ça a été une rampe de lancement pour les disciples. Parce que si tu continues à lire les évangiles, ben, ils vont revenir plus tard en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis !» quoi. C'est, en fait, ça a été une rampe de lancement. Et je termine là. Parce que j'ai été touchée ce matin, en fait, dans les champs. On parlait de montagne, on parlait de la foi, de confiance en Dieu, que tout était possible. Et en fait, on vit des temps beaux sur la montagne, dans la louange. Et on est invité à redescendre maintenant, en bas de la montagne. Et je crois que cette église, elle est appelée vraiment à remporter ses victoires en bas de la montagne. Et Jean-Marc va venir, on va prier ensemble. Et en fait, ce matin, juste pendant le temps de louange, nous voyais là, en haut de la montagne. Et puis en bas, on était attendus. Mais il y avait comme une couronne de brouillard qu'il fallait traverser pour descendre dans la plaine. Et dans cette couronne de brouillard, à un moment donné, on est un peu en panique. Parce que c'est comme si on n'arrive plus à voir nos frères. Et on est un peu... dans le brouillard, tu vois plus rien. Et j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous, ils sont dans ce brouillard, mais n'ayez pas peur dans le brouillard. Parce que les frères, ils sont là. Et dans le brouillard, on peut se parler, on peut s'appeler. Et vous allez pouvoir toucher la main de l'autre qui est dans le brouillard et descendre dans la plaine, au pied de la montagne, là où on va libérer les captifs. Là où on est oint par le Seigneur, qu'on a rencontré sur la montagne, pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs et guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Mais... j'aimerais qu'on puisse prier particulièrement par rapport à ces pensées corrompues qui peuvent être en nous, qui sont des fausses images que l'on peut avoir sur Dieu, une mauvaise compréhension de ce qu'est la foi. Si vous êtes dans cette... compréhension de la foi, j'essaye de tordre le bras de Dieu, j'essaye de le faire fléchir. Non, on n'a pas un Dieu comme ça. Dieu veut que vous rentrez dans le repos de la foi. Et il y a un repos de la foi pour son peuple. Et qu'on se remette à l'endroit. Donc ce qui était tordu, qu'on le remette à l'endroit. Parce que Dieu nous envoie dans cette plaine, et dans cette plaine, on va combattre. On va combattre, on va remporter des victoires pour libérer les captifs.
Et dans ce temps de louange qui était magnifique, mais vraiment tout d'un coup, j'ai vu Jésus, vraiment, et qui, en fait, ça me touche encore maintenant, je voyais ce Jésus, notre Jésus, mon Jésus, qui venait, qui s'approchait avec son manteau de gloire incroyable, et qui disait, qui enverrai-je ? Et j'entendais des personnes parmi vous qui disaient, comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Et alors que ces personnes répondaient vraiment de tout leur cœur, pas juste parce qu'on est dans une ambiance, mais qui répondaient leur cœur et en pleine conscience de ce qu'ils disaient, de ce qu'ils voulaient faire, le Seigneur les touchait et il y avait une onction apostolique incroyable. Et je crois vraiment que le Seigneur va utiliser parmi vous des gens pour ouvrir des villes qui sont pour l'instant imprenables. Je voyais certaines villes, je ne vais pas en dire le nom parce que c'est à vous de le découvrir, entouré d'une muraille, et ces murailles explosaient avec l'onction apostolique qui vient sur cette église. Et on veut prier au nom de Jésus que l'onction apostolique vienne sur ceux qui aujourd'hui disent « Me voici, envoie-moi Jésus, rempli de ta gloire, couvert de ta gloire. C'est pas ma gloire, c'est pas ma force. Je suis là simplement pour toi, ô souffle Saint-Esprit. Recouvre cette assemblée, Seigneur, pour que des fortes ce qui sont imprenables depuis longtemps, maintenant, tombent, explosent, devant ta puissance. C'est toi qui marches. Tu marches avec nous, comme au temps d'Israël, avec la lumière pendant la nuit, la nuée pendant le jour. Merci Seigneur pour ton onction que nous recevons. C'est ton cadeau et nous la chérissons. Merci pour ton onction apostolique sur cette église. Amen.
Et s'il y a l'un d'entre vous qui a eu cette pensée, pas ici, pas avec moi, pas maintenant, juste renoncer à cette pensée pervertie, renoncer à ce mensonge. Juste, vous pouvez lever la main et dire, Seigneur, je renonce à ça. Et je veux dire, c'est OK, Jésus, avec moi, ici et maintenant. Et reposez-vous dans la foi en Jésus. Seigneur, pardon pour ces pensées qui nous ont envahies, qui se sont enracinées, tellement enracinées que tu dis que tu nous dis incrédules et perverses. Pardon pour notre incrédulité, Père. Pardon pour toutes ces pensées corrompues, incrédules, et nous y renonçons maintenant. Nous y renonçons. Et en plus, le Seigneur vraiment nous dit, mais vous n'êtes pas seul. Alors tu peux prendre la main de quelqu'un qui est un peu plus avancé et on va foncer ensemble. Et Seigneur, je prie vraiment que dans cette assemblée, on vive le repos de la foi pour rentrer dans le pays promis. Et ce pays promis, nous avons à le conquérir. Nous savons qu'il y a des peuples devant nous, là, mais nous allons vraiment, avec toi, remporter des victoires, conquérir ce territoire, voir le royaume qui vient dans ce territoire. Et nous te louons, Seigneur, parce que le Dieu qui est sur la montagne, le Dieu de gloire, il est avec nous en bas de la montagne. Amen. Et je voudrais juste prier pour les jeunes qui ont de la force, du tonus. Hein. Moi, je suis partie, hein, j'avais 24 ans. Je sais que là, on a les forces pour voir beaucoup de choses se passer. Et tous ces jeunes-là, on veut vraiment peut-être vous inviter à vous lever. Et on veut prier. Ouais. Oh, je sais pas, moi je vais dire, s'il y en a qui ont 15 ans, vous pouvez se lever, hein, jusqu'à 30 ans. Et 15, alors, les 15-30 ans, waouh, moi je, c'est bon? Chut. C'est dans mon téléphone, chut, ouais. Je suis engagée à prier pour tous pour les jeunes qui partent en mission au loin. Et dans mon téléphone, j'ai plusieurs personnes qui sont qui ont relevé ce mandat de dire « Seigneur, envoie-moi » et qui se sont préparés, parce qu'on ne part pas comme ça. Hein, ils se sont préparés et on est là aussi pour préparer, hein, des fois. Et aujourd'hui, ils sont dans des peuples non adhérents et on je prie pour eux. Et je veux vraiment vous demander au Seigneur qu'il vous montre à chacun où est votre héritage, où est votre mandat, dans quel endroit il vous appelle. Et ça peut être là, dans la profession qu'il va vous demander d'exercer. Ça peut être tout près, mais ça peut être aussi au loin. Parce qu'il y a encore trop de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et ça peut être possible dans notre génération que tout le monde entende parler de Jésus. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et comment entendront-ils si personne n'est envoyé? Alors Seigneur, je prie vraiment pour que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Waouh, envoie des ouvriers dans la moisson à partir de cette église, Seigneur. Oh, et que ces ouvriers continuent à être formés, enfantés, et que tu prennes aux entrailles, vraiment pour que dans cette église, on enfante et on pourra un jour se réjouir. Oui, au travers de tel ami de l'église, je vais rencontrer quelqu'un d'une nation complètement inconnue. Wow. Seigneur, sauve au travers de nous. Amen.
Et Seigneur, on ne te demande pas un petit peu, on te demande, on te demande énormément. On te demande des centaines d'églises implantées, des centaines de leaders qui sortent. Alléluia. 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 Au travers des disciples qu'on a formés, on a implanté des centaines et des centaines d'églises. Et pourtant, aujourd'hui, je me dis, mais Seigneur, mais comment t'as fait, quoi ? Comment t'as fait ? Seigneur, tu le fais au travers de gens qui disent, oui, je veux que tu agisses au travers de moi. Et je vois des jeunes qui vont implanter plein d'églises. Alléluia. Des gens aussi qui vont transformer des lois dans des endroits, des situations dans des endroits. C'est toi qui le fais. Tu cherches des gens disponibles. Tes disciples, ce n'étaient pas des gens exceptionnels. Ce n'est pas des gens exceptionnels que tu appelles, c'est des gens, Seigneur, qui disent « Oui, envoie-moi ». Et Seigneur, il y a vraiment cette onction d'envoi ce matin. Et on te dit merci. Merci de nous avoir choisis dans ton équipe. Et merci pour cette belle équipe ici de Montélimar. Nous déclarons la bénédiction d'Abraham dans tous leurs projets, au nom de Jésus. Amen.